Bonsoir à toutes et à tous. Je suis heureuse de vous accueillir pour cette soirée consacrée à la protection du ciel étoilé, c'est-à-dire à la pollution lumineuse. Je suis moi-même Marie-Jeanne Husset, présidente d'Agir pour l'environnement, et je serai accompagnée, et c'est lui le savant, d'Olivier Lasvernias, qui est président de l'Association française d'astronomie, directeur de la publication en ciel et espace, et professeur des universités émérite. Dans les universités, on dit émérite pour ne pas dire retraité.
Pour dire vieux.
Non, voilà. Mais c'est comme ça que tu peux venir avec nous aujourd'hui. Une petite information, parce qu'aujourd'hui démarre la belle et grande campagne qu'Agir pour l'environnement lance depuis 2009. Et c'est la 17e édition, si on s'est calculé, du jour de la nuit, justement consacrée à la lutte contre la pollution atmosphérique, et qui, cette année, va accueillir plus de 400 manifestations un peu partout en France et même au Québec. Ne me demandez pas pourquoi le Québec, mais au Québec aussi et en France. Avant d'aborder vraiment notre sujet, je veux juste vous dire que notre débat va se dérouler en trois temps, comme une valse. Nous allons valser tous ensemble. Premier temps, Olivier va présenter les éléments du débat, c'est-à-dire la pollution lumineuse et ses conséquences, à peu près pendant 30 minutes. Ensuite, Stéphane Kerkhoff, qui n'est pas marqué dans les programmes, qui est directeur général d'Agir pour l'environnement, va nous expliquer quelles sont les nouvelles menaces que font peser les constellations de satellites et la prolifération des constellations de satellites, et peut-être que des projets de guerre des étoiles. Ils vont discuter tous les deux, nous allons discuter à trois, d'éventuellement de réglementations qui se préparent ou de comment réguler, le statut de l'espace, pour pas que ça devienne justement un far web. Et puis le troisième temps vous sera consacré, c'est vous pourrez poser des questions et nous allons essayer d'y répondre. Et le tout jusqu'à 20h30, si vous êtes d'accord, parce que Olivier et moi, nous rentrons ce soir à Paris et on compte bien prendre le dernier TGV. Voilà, nous commençons dans notre débat par juste une petite introduction. Nous avons pris conscience de plus en plus que nous laissons à nos enfants et à nos petits-enfants une planète pas en très bon état. Mais nous commençons aussi à prendre conscience que nous allons aussi leur laisser un ciel sans étoiles. Alors évidemment, les étoiles, elles sont toujours là, mais nous ne pouvons plus les voir parce que, à cause de la pollution lumineuse, plus de 80% de la population mondiale vit sous un ciel qui est assombri par la pollution lumineuse. Donc Olivier, je voudrais que tu nous exposes, parce que ce sont quand même les astronomes qui évidemment ont été les premiers à donner l'alerte, parce qu'ils ne pouvaient plus faire leur boulot. Entre-temps, ils ont envoyé leurs observatoires dans les déserts, comme dans le désert de l'Atacama, ou dans l'espace, mais le reste, c'est eux qui ont donné l'alerte. Donc je voudrais que tu nous exposes un peu qu'est-ce que c'est que cette pollution lumineuse et quelles sont toutes ses conséquences.
Merci beaucoup, Marie-Jeanne. Alors, le principe, on a dit que j'allais parler pendant 30 minutes et après, on ferait un débat.
Ne t'inquiète pas, je t'arrêterai.
Oui, mais n'hésitez pas aussi à m'interrompre si vous avez des remarques, des questions ou des choses à dire, en considérant que je dis des trucs qui sont absurdes. N'hésitez pas à le dire. Comme je suis émérite, quand je ne suis pas à l'EHPAD, il faut me contrôler. Sinon... Voilà. Et donc, effectivement, je commence par plaider coupable, parce qu'en fait, la table ronde s'appelle Far Web, mais on va quand même parler beaucoup de la protection du ciel nocturne, ce qui n'est pas exactement le même sujet. Vous vous doutez bien que si on parle du Far Web, c'est qu'il y a une influence sur le fait qu'il y a des constellations de satellites qui sont lancées dans tous les sens aujourd'hui. Sur la pollution lumineuse, et qu'effectivement le fait de lancer des tas de trucs en l'air, ça nuit à la qualité du ciel. Mais je fais quand même je profite de l'occasion pour faire un coup de projecteur, c'est le cas de le dire, sur les problèmes de la pollution lumineuse, parce que c'est des problèmes qui sont très importants. Et donc, ce que je vais dire, c'est des choses qui ne sont pas forcément liées au Far Web lui-même. Et peut-être que c'est des choses que vous connaissez déjà, s'il y a des gens qui sont déjà sensibilisés à ces questions-là. Donc, par avance, je plaide coupable en disant que ça peut paraître un peu hors sujet, parce que ce n'est pas exactement Far Web.
Moi, je ne crois pas. Mais je pense que c'est, on est en plein dans le sujet. Avec la...
Là, dans la salle, vous devez dire « Oui, oui, ça nous intéresse énormément ». Voilà. Et après, vous devez dire non, non, mais on connaît un peu, mais on veut se remémorer tout ce qu'on sait déjà. Comme ça, ça me rassurera. Et donc, ensuite, on rentrera effectivement dans la question du Far Web. Et je ne veux pas du tout spoiler la fin, comme on dit. Mais vous verrez qu'en fait, la question du Far Web, ce n'est pas forcément une question pour les 2-3 ans qui viennent. C'est plutôt une question qui se posera dans 10 ans. Mais autant se préoccuper dès maintenant des questions qui se poseront dans 10 ans, parce que dans 10 ans, il sera trop tard pour s'en préoccuper. Voilà. Donc le point de départ, c'est effectivement ce qu'on vient de dire. Alors, j'ai mis dans nos pays économiquement développés, hein, parce qu'en fait, si vous regardez quand même, si vous montez dans la station spatiale, ce que vous devez faire assez souvent, puis vous regardez la Terre, vous verrez qu'en fait, globalement, elle est quand même dans le noir. En revanche, les pays développés ou post-industrialisés comme les nôtres, ils ont tous cette tête-là. Ça, c'est un bout de Paris. Hein. Mais effectivement, quand on dit la majorité de la population a perdu la nuit noire, c'est la majorité de la population économiquement développée, en gros. Ça, c'est une première remarque. Et donc, il suffit de se replonger quelques années en arrière, là, en 1888, et se rendre compte que Vincent Van Gogh écrivait cette lettre à sa sœur en pleine ville. Hein. On peut considérer que c'est exactement comme d'être à Cluny, hein. Enfin, même plus à Mâcon peut-être. Hein. Donc il est à Arles et il est à la terrasse du café d'Arles. Et il peint le ciel comme ça. Et surtout, il écrit cette lettre à sa sœur dans laquelle il dit que le ciel est extrêmement coloré. Donc non seulement on voyait le ciel, mais en plus, on voyait des couleurs aux étoiles, etc., ce qui est quand même aujourd'hui assez difficile à faire en ville. Comme ça va se dégager terriblement et qu'on n'est pas vraiment en ville, vous verrez des étoiles colorées. On a Orion qui sera bien visible avec Bételgeuse et Rigel qui sont respectivement bleu et rouge. Mais on ne peut pas dire qu'on voit des étoiles violettes, vertes, bleues, vertes, des roses, du myosotis dans le ciel aussi facilement que ça de nos jours. Voilà, donc ça c'était pour se remettre dans l'ambiance, et il faut se dire qu'effectivement, on est bien loin de ça aujourd'hui. Je vous passe une célèbre toile d'Arles, toujours de Van Gogh d'Arles, avec la Grande Ourse derrière, et effectivement, ces situations-là ne correspondent plus du tout à ce qu'on voit sur les boucles de la Seine, en plein Paris par exemple, ou pas loin d'ici, sur le Rhône ou l'Ain, en se promenant le soir. Alors, néanmoins, on peut être un peu optimiste. En fait, on constate qu'il y a un phénomène qui est vraiment en train de se développer, qui est l'augmentation de la pollution lumineuse. Donc, je commence sur le coin en haut à gauche. Là, ce que vous voyez, c'est la situation entre 92 et 2013. Donc, regardez le nord de l'Italie, regardez le territoire français. Je ne parle pas de ce qu'on appelait le Bélénux à l'époque, on voit quand même que la pollution, elle a nettement augmenté de 92 à 2013. Alors, ce qu'il faut noter aussi, c'est que là, on ne mesure pas vraiment la pollution, c'est simplement des images prises en lumière visible depuis un satellite qui passe. On voit les lumières qui sont dirigées vers le haut, mais ça donne quand même une bonne idée. En revanche, quand je dis qu'on peut être un peu optimiste, c'est qu'en fait, et on le voit sur cette carte-là qu'on a publiée dans Ciel et Espace il y a 2 ans, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même des zones dans lesquelles il reste du noir. Donc effectivement, c'est plus la peine d'habiter sur la Côte d'Azur ou à Paris pour voir quelque chose. C'est plus la peine d'aller dans les grandes métropoles, vous voyez, Bordeaux, Toulouse, Nantes, etc. En revanche, pas très loin d'ici, vous voyez le Morvan et un bout de la Saône-et-Loire, quand même, qui est vraiment dans une zone assez noire. Et donc, il y a encore des possibilités de voir le ciel en France. Et Je ne veux pas dire que c'est forcément exclusivement à cause d'Agir pour l'environnement et du jour de la nuit, mais on est quand même dans une période de sensibilisation où un certain nombre d'acteurs et d'élus se sont mobilisés. On verra qu'ils ne se mobilisent pas forcément simplement pour la protection du ciel, que beaucoup se sont mobilisés surtout sur la question des économies d'énergie. Mais disons qu'effectivement, dans un truc qui est quand même très décourageant à long terme, on est dans un moment où on peut espérer que les choses bougent. Ça, c'est pour la version optimiste. Puis après, à la fin, on se rendra compte que c'est pas si gai quand même. Oui, 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 il y a toutes les cartes du monde. Pas strictement. Alors, on va voir ça. Et pas strictement, parce qu'il y a des initiatives volontaristes de contrôle. Bon, globalement, les zones qui sont là correspondent quand même à des zones très rurales, ça c'est clair. Mais il y a des zones, on va le voir, il y a des réserves internationales de ciel étoilé, il y en a 7 en France, dans laquelle il y a vraiment un contrôle et une volonté locale, dont la dernière qui est celle du Morvan et qui vient d'être lancée au printemps, là. Donc il y a des zones dans lesquelles il y a vraiment des volontés de contrôle, donc ça s'éloigne un peu de la densité de population, mais en fait c'est quand même très lié à la densité de population. Alors, juste là, voilà, je ne sais pas si vous savez, mais depuis quelques années, là, on est dans des périodes où il y a des aurores boréales visibles en France. Alors, visibles, à l'œil nu, pas vraiment. Photographiables, en tout cas avec un bête smartphone, oui. Et donc là, c'était juste pour montrer, voilà, ça, c'est des aurores boréales vues de Paris. Il faut quand même se lever de bonne heure pour les voir. Et ça, effectivement, on voit bien que quand on est dans le monde rural, on a quand même plus de chances de les voir. Alors, les aurores boréales, il ne faut pas rêver. Il y a eu, en gros, disons, sur les 3 dernières années, il y a dû y avoir 10 soirées pendant lesquelles on en a vu en France métropolitaine. Et il y a encore des possibilités, l'année prochaine, sans doute, d'en voir. Et donc, ça fait partie des raisons pour lesquelles on pourrait se dire que ça vaut le coup de se battre pour contrôler la luminosité du ciel près de chez nous, pour avoir cette occasion-là. Alors, effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, pareil, hein, si vous allez dans une zone où le ciel est contrôlé, vous pouvez faire des photos de ce type-là en 2-3 secondes de pause avec un smartphone ordinaire. Ça, c'est des photos faites avec ce téléphone-là posé dans un bol sur le toit d'une voiture. Poser dans un bol pour pas que ça bouge. En 3 secondes de pause, et vous avez la Voie lactée très facilement visible. Donc voilà ce dont on est privé quand on est noyé dans les lumières parasites. Et ça correspond, j'exagère peut-être un peu, mais ça correspond presque à ce qu'on voit à l'œil nu dans ces zones-là, quand on est dans un ciel relativement protégé. Alors, chose à ajouter, puisque j'ai dit que j'allais faire un plaidoyer pour la protection du ciel nocturne. Une des raisons quand même qui ont amené à la mobilisation sur la protection du ciel nocturne, c'est la protection de la faune et de la flore dont nous faisons partie. Pas de la flore, mais de la faune. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça a été abondamment documenté à quel point le fait de perdre le biorhythme jour-nuit est néfaste à la population animal et aussi aux plantes. Et donc, il y a des études dans tous les sens qui montrent les effets délétères sur la faune, les insectes, évidemment, avec en particulier la disparition de toute une série d'espèces. Alors, les études ne sont pas capables de distinguer les effets des pesticides et de la lumière. C'est-à-dire que si on dit, par exemple, qu'il n'y a plus de hannetons quasiment dans nos pays, il y a deux effets concurrents qui les détruisent, qui sont à la fois les pesticides et la lumière pendant la nuit. Mais en tout cas, c'est démontré que les deux éléments jouent un rôle important, quoi. Et donc, en fait, on a quand même pas mal d'initiatives autour de ça, sur la création de trames noires ou de systèmes pour essayer de permettre la circulation des espèces. Et c'est un élément qui est essentiel, et c'est pas quand Marie-Jeanne disait que c'est les astronomes qui se sont mobilisés, en fait c'est les astronomes qui ont donné l'alerte, Mais en fait, c'est beaucoup aussi les collègues et les personnes qui ont pris des positions concernant la faune et la flore et l'importance du biorythme jour-nuit pour les espèces vivantes qui ont mobilisé sur ces questions-là, quoi. Ah oui, alors conséquence, oui, bien sûr, oui. Je vais te laisser le dire.
Ça a aussi une influence sur la santé humaine. Ça a été aussi cette espèce d'absence de nuit est considérée comme un perturbateur endocrinien. Donc c'est aussi, ça a aussi des conséquences sur notre santé en tant que vivant, être
humain. Donc aussi conséquence sur notre santé à nous.
Absolument. Alors c'est pareil pour les insectes notamment et pour la faune et la flore, il y a tous les agents chimiques qui jouent aussi. Pour la santé humaine, ça va de pair avec la vie nocturne enfermée, l'usage des écrans, etc. Donc on ne sépare pas exactement bien tous les effets qui jouent, mais c'est tout à fait documenté qu'effectivement, notamment la sécrétion de la mélatonine, etc., sont complètement modifiées. Si on reste dans une atmosphère complètement éclairée à longueur de journée, de nuit plutôt. Alors, effectivement, l'idée qui est communément répandue, c'est que la question de la pollution lumineuse, c'est une question pour les astronomes, quoi, en gros. Et que les pauvres astronomes, ils sont malheureux et ils essayent de nous ramener vers eux pour qu'on défende leur cause. Or, en fait, c'est pas vraiment les astronomes qui sont les plus concernés. En fait, les astronomes, les chercheurs, ceux qui sont...
Tu veux dire les professionnels, voilà, les amateurs.
Même les amateurs. Je vais déjà commencer par les professionnels. Les professionnels, ils ont bien compris la situation. C'est-à-dire qu'en gros, c'est pas la peine d'observer en France métropolitaine, par exemple, à l'Observatoire de Meudon, à l'Observatoire de Lyon, à Floirac ou ailleurs, à Saint-Genis-Laval ou ailleurs, où il y a les observatoires traditionnels qu'on avait développés au 18e, 19e siècle, mais il faut faire les travaux théoriques et faire la préparation des instruments, et puis la captation réelle de l'image, ben, on la fait à distance, soit on la fait en allant au Pic du Midi, par exemple, ou au Chili, soit on la fait en lançant des télescopes. Là, vous avez le James Webb Télescope, qui est le successeur du Hubble Space Telescope. Et donc aujourd'hui, les astronomes, ils ont leur bureau en ville et ils ont leurs instruments de captation de lumière ailleurs, dans des zones protégées. Et de plus en plus, même les amateurs, ils utilisent ce qui s'appelle des remote télescopes. Et il y a des gens qui louent, des gens tout à fait sympathiques, qui louent des télescopes au Maroc ou au Chili ou ailleurs, qui ont des fermes de télescopes, qui sont connectés par Internet. Et nous avons plein de camarades qui passent leur journée, quand il y a un décalage horaire de 12 heures, à observer depuis des télescopes qui sont dans des fermes à télescopes au Chili. Ils payent $200 par an pour avoir ça. Certains ont leur télescope à eux qui est posé là-bas et ils communiquent par Internet. Et d'autres empruntent ou louent une heure, deux heures, trois heures de télescope pour observer, et même du côté des amateurs, quoi. C'est un peu comme si on pêchait à la ligne en Écosse en restant chez soi tranquillement, peut-être avec un joystick comme ça, et hop, ça y est, j'ai attrapé une super truite. Je ne sais pas si on pêche des truites en Écosse, des saumons peut-être. Bon, enfin bref. Donc effectivement, en fait, les astronomes, les gens dont le rêve c'est de faire des belles images comme ça, ils ont très bien compris. C'est plus simple de le faire ailleurs où on est protégé de la pollution lumineuse. Donc, notre point de vue à nous, là je parle en tant que président de l'Association française d'astronomie, notre point de vue à nous, si je fais ça, ça passe une diapo, c'est qu'en fait l'enjeu le plus important, il est plutôt pour monsieur et madame tout le monde. C'est-à-dire moi, voilà, j'ai plus besoin de... Enfin, je regrette vraiment de ne pas voir la Voie lactée tous les soirs, mais je sais qu'effectivement, je peux aller dans le Morvan ou je peux aller ailleurs, et si j'ai envie de passer un week-end à regarder la Voie lactée, ben je le ferai très très bien. La question, c'est plutôt que pour la plupart des gens qui n'ont jamais vu la Voie lactée et qui ne savent pas qu'elle existe, ben ils ne vont pas penser qu'ils peuvent aller dans le Morvan pour aller la voir, et donc ils ne la verront jamais. Et donc les enjeux, effectivement, pour l'homme, comme disait Marie-Jeanne, il y a des enjeux physiologiques pour l'homme, mais il y a surtout des enjeux culturels. C'est-à-dire que pour des gens qui sont dans ma catégorie d'âge, à l'âge de 10 ans, quand j'allais à la campagne ou ailleurs, ben je voyais la grande ourse, je savais ce que c'était, je savais qu'on pouvait voir Vénus qui se couche le soir, etc. Et ma prof de maths, d'ailleurs, nous avait distribué des cartes du ciel et des machins comme ça, etc. Donc c'était dans notre culture que les objets du système solaire, c'était des trucs qu'on voyait dans le ciel. C'était dans notre culture que la Voie lactée existe, que la grande ourse, c'était des petits points brillants, etc. Et la question aujourd'hui, c'est celle-là. C'est que toute cette immersion, cette compréhension de notre environnement, elle s'est complètement transformée, quoi, en gros. Et même si je le disais pas comme ça, ou même si nous le disions pas comme ça, nous qui sommes dans les septuagénaires, l'environnement, il s'arrêtait pas à 10 km. L'environnement, c'était pas seulement ces arbres et puis derrière une petite colline et tout ça. Derrière, il y avait l'endroit où pouvait se coucher Vénus, il y avait l'endroit où de temps en temps on pouvait observer Mercure. Et puis par là, c'est le nord, donc il y avait la Grande Ourse. Et en hiver, on voyait Orion, etc. quoi. Et donc, ce qui s'est passé avec la pollution lumineuse, c'est qu'on a arrêté le paysage à 10 km. Quoi. Alors si on a du bol, on a peut-être le Mont Blanc à 100 km. En tout cas, le paysage que nous voyons tous, il s'arrête aujourd'hui, alors que à cette dizaine ou centaine de kilomètres, alors qu'en fait, si on n'avait pas de pollution lumineuse, à l'œil nu, on voit la galaxie d'Andromède assez facilement si on est dans un bon ciel. Et la galaxie d'Andromède, elle est à 2 millions d'années-lumière. Et donc, ça fait partie de mon environnement visible. Et donc, c'est ça réellement l'enjeu. Et alors, pour vous convaincre de ça, je ne vous parle pas des comètes. Là, il y a des comètes qui vont arriver. Normalement, le 21 avril, on a un coup de bol. Oh, pardon, pourquoi avril d'ailleurs ? Oui, peut-être, 1er avril, 21. Donc là, on a deux comètes qui vont arriver, enfin, qui sont en train de devenir de plus en plus visibles. Là. Les comètes, c'est toujours un peu la loterie, quand même. C'est un peu comme le Premier ministre, mais en plus drôle. Et donc, là, on a deux comètes qui sont en train de devenir de plus en plus lumineuses. Les comètes, c'est des boules de glace et de poussière qui viennent en général du fin fond du système solaire, qui date du système solaire primitif, et qui tourne de manière excentrée autour du Soleil, si on veut, sur des ellipses en biais, en gros. Et les comètes fondent en s'approchant du Soleil, puisque c'est des boules de glace poussiéreuses, en gros. Et donc, elles libèrent des queues de poussière comme ça. Et ces queues de poussière sont accompagnées d'une queue de gaz, qui se voit aussi en même temps. Et donc, c'est très difficile de prédire à l'avance quel sera leur éclat. Mais là, en tout cas, normalement, le 21 octobre, ça sera le maximum pour deux de ces comètes. Et donc, on peut essayer de les voir. On peut essayer de les voir s'il y a un ciel pour les voir. Quoi. Et il y a, pendant le premier confinement, en 21, toute la France a pu voir une comète qui était visible à l'œil nu si on avait un ciel dégagé, qui était NEOWISE. Et plein de gens qui le savaient et qui étaient sous des bons ciels ont fait des photos avec des smartphones tout à fait simplement, à condition qu'ils aient de la curiosité pour le ciel, ce qu'ils ne peuvent avoir que s'il existe dans leur tête. Quoi, en gros. Voilà, donc ça c'était un petit couplet pour dire qu'on perd quand même quelque chose. Et puis ce qu'on perd, c'est toute une culture. Les marques de l'intérêt pour l'astronomie, elles sont partout sur la planète. Donc je vous présente ça c'est dans les îles Orkney, c'est le Ring of Brockgar, c'est un Stonehenge local. Donc ça c'est un calendrier pour repérer, donc je parle de en haut à gauche, hein. Un calendrier pour repérer les solstices et les équinoxes, c'est dans le mainland des Orkney, donc juste au-dessus de l'Écosse, enfin en Écosse, juste au-dessus de John O'Groats, un truc comme ça. Et donc voilà, c'est une marque de l'importance qu'avait le fait de suivre les choses dans le ciel pour nos prédécesseurs. À côté, vous reconnaissez peut-être en haut à droite le Machu Picchu, le temple de la Lune et du Soleil au Pérou. Pareil, donc une ville entièrement consacrée au temple des planètes et de la Lune. Et puis ensuite, vous avez une superbe illustration sortie des cartes du ciel arabe de Abd al-Rahman al-Sufi, la Piedra del Sol au Mexique, et puis le plafond de la Villa Farnèse en Italie, Renaissance italienne. Donc ce qui est sûr, c'est que le ciel, il est présent dans plein d'endroits, dans plein de cultures, partout sur la planète, et qu'en fait, le ciel a déclenché toute une série d'œuvres de production, de réflexion, d'outillage, et que le fait de le perdre, ça nous coupe de toutes ces racines-là. Alors évidemment, on peut quand même aller regarder ces objets et se demander ce qu'ils représentent, mais la façon dont on les approprie est totalement différente si on n'a jamais vu soi-même le ciel étoilé, ou si finalement on l'a vu et qu'on peut se dire finalement ça servait à viser, où est-ce que le soleil se couchait, où est-ce que là ça servait à observer la lune, ça représente une partie du ciel, la constellation du Sagittaire, ça représente les cycles de la lune et du soleil, etc. etc. Et en quelques autres, je ne vais pas traîner là-dessus, donc vous reconnaissez peut-être la déesse Nout. Dans les tombeaux des pharaons, la déesse Nout, c'est la déesse sur le corps de laquelle sont peintes les étoiles. Et en dessous, vous voyez le bateau du soleil, avec sa forme en quartier d'orange, là, qui se couche d'un côté et se relève de l'autre tous les soirs. Enfin, tous les matins, il se relève, plutôt, il se couche tous les soirs. Vous avez en haut à droite des cartes du ciel retrouvées du 8e siècle dans notre ère, retrouvé sur la route de la soie d'Unhang, donc à la frontière chinoise, frontière est de la Chine, où vous reconnaissez la constellation d'Orion, les Pléiades, etc. Et en bas, c'est une peau Pawnee, donc c'est les Indiens, les peuples premiers nord-américains, sur lesquels on voit la Voie lactée, les Pléiades et les constellations qui étaient peintes. Et pour les Pawnee, la Voie lactée, c'était le chemin des blessés qui remontait vers la mort après les combats. Et donc, c'était un outil tout à fait logique dans la vie des combats, des tribus, etc. Et puis, en haut à gauche, c'est une tablette cunéiforme. C'est les tablettes... comment elles s'appellent ? Mulapine. Voilà, donc c'est les tablettes qui datent de 1600 avant notre ère et qui contiennent la description des constellations en cunéiforme, donc avec des bâtons triangulaires ou pointus. Et une grande partie de ces constellations sont celles qui nous servent encore aujourd'hui pour désigner les parties du ciel. Donc je ne dis pas que toute l'histoire des sciences ou toute l'anthropologie va mourir parce qu'on a une pollution lumineuse, mais je dis que les rapports qu'on a avec ces artefacts, ces éléments-là, ils sont complètement dépendants du rapport qu'on a, nous, avec le ciel aujourd'hui, quoi. Évidemment, on ne les perd pas complètement, on ne perd pas l'histoire de l'humanité, mais on perd quand même une certaine relation avec ce qui a intéressé nos ancêtres dans toutes les parties du monde. Le ciel, c'est un miroir des cultures et on sera peut-être parmi les premiers à ne même pas se dire que c'est un rapport avec notre culture. Alors, voilà, ça je passe rapidement, parce que je vois que Marie-Jeanne
regarde
sa montre. Alors, voilà, une fois que j'ai dit tout ça, vous pouvez, je sens que vous vous embêtez un peu, et vous pouvez peut-être vous dire, mais finalement, qu'est-ce qu'on en a à faire, quoi, en gros ? Alors qu'on a des choses beaucoup plus importantes, la composition du nouveau gouvernement, par exemple. Donc, est-ce que c'est si grave de voir des parts... Bon, ok, ça va, ça nous coupe de nos racines, très bien, c'est pas la première fois qu'on est coupé de nos racines. Alors, en fait, pour moi, ce qui est le plus frappant, enfin, je suis pas le seul à dire ça, pour beaucoup d'entre nous, ce qui est le plus frappant, c'est le fait que, à la fois, on va vivre dans un monde sans étoiles, on aurait même presque pu mettre un S à étoiles, quand même, et d'un autre côté, on n'arrête pas de nous parler de l'exploration spatiale. C'est-à-dire que vous savez sans doute qu'il y a des robots sur Mars. Alors, il y a des gens qui croient qu'ils ne sont jamais allés. Trump, bientôt, il croira qu'ils ne sont jamais allés. Mais il y a des gens qui croient que les robots sont jamais allés sur Mars, que l'homme n'a jamais marché sur la Lune. Mais néanmoins, la grande majorité de la population sait que ça existe. Donc, on entend parler et on voit des images de l'espace, et en même temps, on ne voit plus l'espace. Donc, c'est vraiment une situation paradoxale, quoi. Et on voit bien que c'est une espèce d'artificialisation de l'espace. En fait, on est passé dans un mode d'exploration par procuration, quoi. Avant, on pouvait se demander soi-même, de dire, bah, tiens, je vais essayer de voir, demain matin, je me lève, je verrai Vénus avant le soleil. Bah, maintenant, c'est pas ça du tout qu'on fait. C'est qu'on sait qu'il y a des sondes et des machins qui sont autour de ces planètes et qui s'en occupent pour nous, quoi, en gros. Et donc, c'est une extériorisation complète, quoi. Alors, est-ce que c'est grave ? Alors, je vous présente deux éléments qui laissent penser que c'est quand même relativement grave. C'est grave parce qu'en fait, si on n'a pas l'expérience directe du ciel, on peut quand même imaginer toute une série de choses. Donc, je vous présente B.O.B. Je ne sais pas si vous connaissez B.O.B., mais il paraît qu'aux États-Unis, il est vraiment très connu. Donc, B.O.B., il a fait une souscription. Alors, à l'époque, il n'avait que 6 000 $ sur les 1 million qu'il attendait. Et en fait, il n'a jamais réussi à dépasser 17 000 $. Je suis désolé pour lui. B.O.B., il est quand même très fort. Il a lancé une souscription pour faire un satellite pour démontrer que la Terre est plate. C'est quand même pas bête. Alors, toujours pas bien compris où passait le satellite, sans doute dans des trous, comme ça. Mais en tout cas, son idée, c'était de lancer un satellite. Comme ça, il ferait des photos d'en haut, on verrait que c'est plat. C'est quand même... Bon, c'est pas beaucoup, 6 000 $, vous me direz, ou 17 000 $, mais ça, il l'a quand même fait. Donc c'est la gamme au-dessus de celui qui lance une fusée pour qui se tue avec, pour regarder si la Terre est plate. Et alors l'autre, il est encore mieux, j'ai oublié son nom, je suis désolé pour lui. Lui, il a fait une expérience encore mieux. Il s'est filmé en la faisant. Donc il a filmé un niveau à bulles dans un avion pour montrer que la Terre était plate. Et elle est, alors donc, conclusion, elle est plate. Donc, alors, il n'avait pas beaucoup d'argent. Il a volé de Caroline du Nord à, je ne sais plus où, au Texas ou ailleurs. Donc, pendant 3000 km, il a filmé le niveau à bulles qui est là. Et il a constaté que ça ne s'inclinait pas.
Et les bulles dans son cerveau, on
a dit... Ah non, non, mais c'est pas... Alors, vous rigolez, mais ce n'est pas bête. Parce qu'il faut déjà le penser. Donc, c'est bien. Et voilà. Et alors, je passe les détails là, sinon... Marie-Jeanne va vraiment m'en vouloir. Il y a toute une série de personnes qui sont sensibilisées par un type qui s'appelle Dave Murphy, qui fait des publications sur la Terre plate. Et il y a des tas de gens qui travaillent pour prouver que la Terre est plate avec les horaires d'avion. Il y a deux méthodes. La première méthode, c'est Kamchatka et Kamchatka-Alaska. C'était avant que Poutine aille en Alaska, en plus. Donc l'idée, c'est très simple. Si la Terre est ronde, l'Alaska est près du Kamchatka. Donc, on peut y aller en vitesse en avion. Or, si on regarde sur les moteurs de recherche comme Opodo et tous les moteurs d'avion, eh ben, on se rend compte qu'il n'y a pas de vol direct de l'Alaska au Kamchatka. Donc, la Terre n'est pas plate. Donc la Terre n'est pas ronde. Vous suivez le raisonnement. Et alors, ça, c'est la version Mercator. Et il y en a d'autres qui ont démontré que la Terre était plate, mais qu'elle est plate comme le drapeau de l'ONU. D'ailleurs, c'est la preuve que l'ONU le sait déjà qu'elle est plate. Sinon, il ne mettrait pas comme ça sur son drapeau. Vous voyez, c'est une projection polaire avec le pôle au centre. Et alors là, c'est pareil. Ils ont démontré, ils proposent, pour se convaincre que la Terre est plate, de regarder les horaires d'avion et d'essayer de trouver des avions qui font la liaison directe entre les villes de l'hémisphère sud. Par exemple, Santiago-Canberra, ou des choses comme ça. Et en fait, il n'y en a pas. Alors, j'ai passé un week-end entier à vérifier, quand même, et j'en ai trouvé. Mais après, j'ai vu la vidéo suivante. Il y en a qui sont marqués pour nous faire croire que la Terre est ronde. Mais si on réserve, eh ben, il n'y a pas de place. Alors, j'ai pas réservé, ça coûtait 3 000 $, j'ai quand même pas essayé. Je me suis... Déjà, j'ai pas donné 1 000 $ à l'autre, j'allais pas en plus dépenser 3 000 $ pour réserver un avion qui n'existe pas. Mais donc, alors, les platistes, c'est presque une plaisanterie. Cela dit, ça existe quand même, et la désinformation et le fait de ne pas être capable de relier ce qu'on croit, ce qu'on imagine à des choses qu'on peut observer, c'est quand même une catastrophe. Donc, perdre la possibilité d'observer le ciel, c'est quand même perdre une compréhension de son environnement, quoi. Donc je ne dis pas qu'il y a une relation directe entre toutes les fake news et tout ça et la pollution lumineuse, mais il y a quand même une petite partie de culpabilité qu'on peut avoir. Alors, je sens... Hop. Maintenant, je passe au truc un peu concret. C'est quoi les leviers ? Donc, on a déjà parlé tout à l'heure des réserves de ciel étoilé. En fait, il y a plein... Si ça s'est un peu amélioré ces dernières années, ça s'est amélioré pour plusieurs choses. D'abord, il y a une mobilisation d'un certain nombre d'acteurs, dont des élus locaux, dont des mouvements comme les nôtres. Et puis, il y a la loi Grenelle 2 qui a quand même proposé un certain nombre de choses pour la France. Et puis, il y a quand même des évidences qui commencent à passer. C'est-à-dire, la première évidence, c'est que ça mérite... la protection du ciel nocturne mérite qu'on s'en occupe vraiment. Donc, c'est l'idée de faire des zones protégées. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième, c'est l'idée d'éclairer mieux. Donc, ça y est, maintenant, on n'a plus le droit de fabriquer et de commercialiser et d'installer dans le domaine public des lampadaires qui éclairent en haut plutôt que d'éclairer en bas. Bon, ça continue quand même, dans les résidences privées, ça continue quand même à se faire. Mais en tout cas, il y a un certain nombre d'éléments comme ça qui sont sortis. Pareil, les lois ont limité les éclairages de publicitaires, les éclairages de vitrines, les éclairages de bâtiments de bureaux, etc. Et puis, on a commencé à voir apparaître les extinctions, enfin à voir réapparaître plutôt, les extinctions nocturnes, donc de plus en plus de villes qui éteignent en cœur de nuit, comme on dit, ou de villages, donc qui éteignent soit de 11h, soit de 23h à 5h, soit d'une heure à 5h, etc. Et puis, nos camarades de l'Association nationale pour la protection du ciel et de l'environnement nocturne, qu'on a contribué à fonder il y a quelques décennies, qui ont lancé des labels, donc un label ville et visuage étoilé, et un label territoire de ville étoilée. Donc il y a 17 territoires en France qui sont labellisés territoires de ville étoilée, et 1025, je crois, communes qui ont le label ville et village étoilé. Donc, et si vous regardez la carte, j'ai une carte un peu plus précise. Non, c'est l'autre, c'est celle-là, voilà. Effectivement, les verts vifs, là, c'est les territoires, donc des communautés de communes ou des trucs comme ça. Et les petits verts un peu... Les petits bleus, là, c'est les villes et villages. Donc, on est à 1000 à peu près. Et donc, ça commence à fonctionner. Ce sont des villes et des villages. Il y a 5 niveaux de label, de 1 à 5, selon les mesures qui sont prises. Et puis, l'autre chose, donc j'en ai déjà parlé, c'est les réserves de ciel étoilé. Donc, les voilà. La première, c'est le pic du Midi, donc qui est quand même lié à l'observatoire astronomique, mais qui allait très largement sur la plaine autour du pic. Hein, donc, ce n'est pas seulement le pic du Midi lui-même. Et puis, donc, les dernières, Landes de Gascogne et Parc régional naturel du Morvan. Donc, ça, c'est important. Et ça commence à marquer vraiment des choses qui peuvent vraiment avancer, quoi. Alors, ça, c'est les côtés positifs, les outils dont on dispose. Après, le problème des freins, les freins, on les voit. Il y a quand même énormément, de choses autour de la fée électricité. C'est-à-dire que vous avez quand même encore dans la tête de beaucoup d'élus et de beaucoup d'habitants que ben, finalement, si on est riche, si on est moderne et si on vit au XXIe siècle, on mérite d'être éclairé partout et que c'est bien et que ça fait moderne d'être éclairé, quoi, en gros. Et c'est vraiment ce qui est apparu dans l'entre-deux-guerres avec l'idée de la fée électricité, c'est-à-dire qu'on a cette source d'énergie qui nous permet de nous éclairer et on sort de cette espèce de terreur nocturne. Dans la nuit, on ne sait pas ce qui peut nous arriver, c'est les maléfices, c'est les mauvais esprits. Et puis, ça fait peur, etc. Donc, le noir, ça fait peur. La nuit obscure, on entend des bruits, on ne sait pas ce qui se passe. Et on a le progrès, qui est le progrès, c'est de faire disparaître tout ça, en gros. Et on a aussi beaucoup d'idées qui ont été assez démolies, en gros, par des publications scientifiques. Mais l'idée que, ben, s'il fait noir, on est plus en sécurité. Pardon, s'il fait noir, on est moins en sécurité, et que s'il fait jour, je vois que vous suivez. Et alors,
La plupart des études montrent... Alors, il n'y a pas d'études sur des territoires énormes. Il y a des études sur 70 communes, sur des portions d'autoroute, etc. En gros, les études, elles montrent que finalement, ça ne change rien. Et les études, ce qu'elles montrent, c'est assez logique finalement. C'est-à-dire que l'idée que les criminels verraient la nuit avec des lunettes infrarouges et qu'ils verraient les gens dans le noir... C'est un peu absurde, quoi. Si moi, je suis dans le noir, celui qui va m'agresser, il est aussi dans le noir, quoi. Donc, c'est, bien sûr, on a peur, mais finalement, on n'est pas plus en danger. Alors, on est en danger dans la mesure où on peut se casser la figure dans le caniveau, ça, c'est autre chose. Ou se cogner dans le lampadaire qui est un manque de bol. Mais voilà. Donc les solutions, par exemple, les lampadaires à cellules qui s'allument quand on passe, ben, ils sont très bien, ils ne posent aucun problème. Et effectivement... L'impression, quand on est dans une rue où il n'y a que mon lampadaire qui est allumé, je ne vois pas le bout de la rue. Donc je peux me dire qu'elle est pleine de criminels. Mais s'il y a des criminels au bout de la rue, eux, ils sont dans le noir et ils ne sont pas très à l'aise non plus, quoi, en gros. Et puis s'ils sont au bout de la rue, normalement, leur lampadaire s'est allumé, quoi. Mais n'empêche que ça donne l'impression qu'on est en insécurité. C'est pareil pour les autoroutes. Donc il y a l'expérience célèbre de l'autoroute A16. C'est-à-dire qu'en gros, on l'a éclairé complètement, donc nord de la France, enfin, nord Picardie, etc. On l'a éclairé complètement, et en fait, comme c'est une région avec beaucoup de brouillard, ben, finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait plus d'accidents quand c'était allumé que quand c'était éteint. Parce qu'en fait, quand on éclaire une autoroute avec des lampadaires en haut, enfin en hauteur, ben, on éclaire le brouillard, alors que si on a des antibrouillards sur sa voiture, ben, on éclaire en dessous du brouillard, ça tout le monde le sait. Bon, et donc effectivement... C'est rassurant de se dire que l'autoroute est allumée, mais dans la réalité, c'est plutôt plus dangereux de rouler dans une autoroute où il y a du brouillard qui est éclairé par au-dessus, quoi. Donc il y a tous ces phénomènes-là qui sont vraiment des freins. Et donc l'opération n'est pas si simple. C'est vraiment un changement de mentalité, quoi, en gros. Et là, on est un peu inquiet en ce moment. Donc ça, c'est un très mauvais exemple. On constate qu'il y a des villes qui commencent à rallumer. Dans celles qui avaient éteint, il y en a qui commencent à rallumer. Et là, si vous regardez le texte, en gros, sur Orléans, alors Orléans avait éteint en cœur de nuit, hein, pareil, 23h, je ne sais pas quel était l'horaire, mais disons 23h, 5h ou un truc comme ça. Ils avaient éteint pour des raisons d'économie d'énergie. Manque de bol, et ça c'est un élément qu'on s'est pris sur la tête. Les nouveaux éclairages avec des diodes LED consomment à peu près 5 fois moins que les anciens éclairages à sodium et les vieilles lampes jaunes qu'on avait. Et donc, une ville qui disait « je fais des économies d'énergie », ben elle peut continuer à dire qu'elle en fait en passant sur des diodes LED. Et à ce moment-là, les éclairagistes leur disent « ah ben, ça consomme 5 fois moins, donc mettez-en 2 fois plus, en gros ». Voilà, c'est un peu ça l'idée, quoi. Et donc, on est dans une logique où pas mal de villes s'étaient mobilisées à cause de cette idée que ça permettait des économies d'énergie. Et en ce moment, il y a d'autres choses qui font des économies d'énergie, des changements de technologie. Et le discours, je ne vous fais pas le paysage politique actuel, je suis là dans une neutralité axiologique.
Ça s'entend.
Ça s'entend, voilà. Mais disons qu'en ce moment, on sent bien que toute une série de mouvements politiques ou de pressions diverses font que le sentiment d'insécurité est poussé à son maximum. Et donc, dans beaucoup de villes, on voit ce qui s'est passé à Orléans. Là, ils disent sur ce... Voilà, c'est le premier sujet. Voilà, le maire d'Orléans dit que c'était le premier sujet de demande des habitants à la mairie.
De rallumer.
De rallumer. Donc c'est quand même... Hein ? Mais je prends Orléans parce que c'est l'exemple dont sur lequel j'ai des données. Je sais que j'ai entendu des mêmes choses dans d'autres villes. Je n'ai pas les éléments. Là, ça a été largement couvert par la presse. Et donc voilà, et on entend bien... Je ne veux pas donner ton témoignage, Stéphane, mais il y a des témoignages où on entend bien que... À l'intérieur des listes municipales, il y a des gens qui disent « bah ouais, moi, j'ai besoin de rassurer les habitants de mon quartier ou j'ai besoin de rassurer mes proches. » Et il faut que pour la prochaine mandature, on annonce qu'on va remettre de l'électricité.
On t'entend pas bien.
Ah, pardon. Voilà. C'était pas gay ce que je disais, mais...
Non, donc...
Donc je disais, oui,
des... encore 5 minutes.
J'accélère. Alors voilà, donc on en veut. Moi je j'en veux pas aux personnes. Je suis le premier. Hein. Moi, j'aime bien me sentir en sécurité. Je suis un peu parano là. Je suis un peu inquiet parce que je sais pas si ça vous intéresse ce que je suis en train de raconter. Mais j'aime bien me sentir en sécurité. Mais je me rends bien compte qu'il y a des tas de manipulations qui changent mon sentiment de sécurité. Et le résultat, c'est qu'effectivement, beaucoup d'élus sont dans cette logique-là. C'est-à-dire soutenir le sentiment de sécurité, s'appuyer sur le sentiment d'insécurité pour décider qu'il faut rallumer, qu'il faut éclairer, etc., qu'il faut en mettre encore plus, ainsi de suite. Et donc la balance, elle est un peu là-dessus, quoi. Est-ce qu'on peut réfléchir un peu mieux à notre sentiment de sécurité, d'insécurité, et se dire que, ben, effectivement, ça, peut-être que l'environnement nocturne, c'est quelque chose d'intéressant, et que finalement, le fait de me laisser... envahir par des sentiments d'insécurité qu'on me met sur la tête, c'est peut-être ça à quoi il faut faire attention. Alors, quelques mots sur le Far Web, et après,
oui,
et après je repasse la parole.
Voilà, on donnera la parole à Stéphane pour oui. nous expliquer pourquoi il a voulu titrer Far Web et quelles sont les menaces que font peser la prolifération des constellations de satellites.
Alors, le truc, il est très simple. Je ne sais pas si vous en avez vu, vous, dans le ciel. D'abord, je ne sais pas si vous avez vu le ciel récemment. En gros, on commence à en voir pas mal. Donc, le principe est le suivant. Là, c'est Elon Musk, mais derrière lui, il y a Jeff Bezos et d'autres qui se sont rendus compte qu'il y avait un marché colossal à fournir de l'Internet à haut débit partout dans le monde. Donc, l'idée, c'est de se dire, bah, en fait, si c'est très simple, il suffit de mettre des satellites qui diffusent de l'Internet au-dessus de nos têtes, à 300 ou 400 kilomètres. On met plein de satellites partout, et comme ça, on vend, ça doit coûter 30 ou 40 dollars par mois, on vend des solutions Internet valables partout sur toute la planète. Donc, Jeff Bezos a créé le programme Starlink.
Non, c'est Elon Musk.
Elon Musk a créé le programme Starlink, et Jeff Bezos est en train de préparer le sien ensuite. Et donc le principe de base, c'est de lancer, il en est à 8700, et donc l'objectif c'était d'atteindre 32 000. Donc Jeff Bezos n'a pas encore lancé les siens, mais pour l'instant rien qu'avec Elon Musk, 42 000 peut-être, on en est là. Donc ça c'est la situation réelle en ce moment. Donc il y a 8700 satellites qui nous tournent autour de la tête. Donc, ils sont beaucoup plus nombreux que tous les autres. Hein. On est au total à 8700 satellites Starlink. Et si je vous présente, si jamais il fait beau, je vous présente le programme de ce soir. Alors, je vais vous le présenter en... Voilà. Donc là, on est à Cluny. Hein. J'ai mis les coordonnées de Cluny. Et donc là, c'est les 5 premières minutes depuis la tombée de la nuit, donc de 19h21 à 19h26, voilà tout ce qu'on va voir dans le ciel qui va nous passer au-dessus. D'accord ? Donc chaque ligne, c'est, voilà, vous voyez, il y a un vieux Cosmos 1959, une fusée qui va passer à 19h21, mais ensuite, c'est toute une série de Starlink. Ensuite, on a Cosmos 921 russe là, qui va nous passer dessus. Et puis ensuite, on a à nouveau une ribambelle de Starlink. Et donc, là, il n'y a que 5 minutes. Hein. Si je vous montre le vrai site, juste une seconde. Voilà, Evans Above. Donc là, j'ai exclu les Starlink, je vais les remettre. Voilà, je vais réactualiser. Le 11 octobre, ce soir. Voilà. Donc là, vous voyez, je commence à 19h21. Voilà, tout ça, ça va nous passer au-dessus de la tête. J'étais sûr que ça vous plairait. Et donc, voilà, là, on est à 20h50, 21h, voilà, 23h28, là. Voilà, donc, il y a quand même du monde au-dessus. Et donc, voilà, le phare... Alors, pourquoi on parle de Far Web ? C'est parce qu'en fait, clairement, la réglementation aujourd'hui sur le spatial n'interdit absolument pas de lancer tout et n'importe quoi en l'air. Donc,
excuse-moi, tu parles de réglementation, il n'y en a pas.
Alors, il y a quand même une réglementation aux États-Unis sur les activités de lancer de fusées, mais elle n'interdise en rien de lancer des bidules n'importe où dans l'espace, quoi, en gros. Et il n'y a pas de réglementation.
Il n'y a pas de réglementation de l'espace.
Absolument. Et donc, je reviens à mon PowerPoint. Je le remets en marche. Voilà, donc vous avez compris le truc. Alors, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Elon Musk, il les lance par paquet de 60. En fait, les Starlink, c'est à peu près ça. Ça, c'est un CubeSat. Ça, plus des panneaux solaires assez grands. Donc, en fait, il prend une fusée, il en met 60 sur une brochette, il lance le truc et ensuite, il les ouvre dans l'espace et ça donne un train qu'ensuite... qu'on peut voir passer vraiment très brillamment. On voit un train de points. Et puis ensuite, ils ont des petits moteurs pour les orienter. Et ils se décrochent progressivement et ils vont occuper leur place pour faire une superbe mosaïque au-dessus de vos têtes. Donc en fait, il n'a pas lancé 8000 fusées. Il a lancé des paquets de 60. Mais juste, ça, c'est des stats sur les lancements de fusées et d'objets qui partent en orbite. Voyez qu'on est dans une situation... Donc je ne fais pas le commentaire par pays... Mais vous voyez qu'on a beaucoup lancé des choses en l'air dans les années 80, on s'est un peu calmé en 2000, et là on est parti pour la gloire, indépendamment du fait qu'en plus dans chaque fusée on peut lancer 60 trucs d'un coup, on est vraiment dans une expansion dans tous les sens, et donc dans la logique de la ruée vers le spatial et vers le web en spatial, quoi.
Tu veux qu'on donne la parole à Stéphane,
voilà,
pour...
Oui, absolument.
Parce que Agir pour l'environnement va sûrement lancer une campagne contre toutes ces constellations de satellites.
Et juste une petite photo pour passer la parole. Donc ça, par exemple, c'est le concours photo ciel et espace, les étoiles de l'astronomie, auquel je vous conseille de participer cette année grâce aux belles photos que vous ferez. Et on a fait exprès une catégorie « L'homme et le ciel ». On a laissé ouverte et en fait, on a primé une photo dans laquelle on n'a pas effacé les Starlink. Maintenant, les gens qui font des photos astronomiques, ils ont des logiciels pour effacer les satellites. Et là, voilà une très belle photo prise à Marly-le-Roi, donc pas très loin de Paris, avec une superbe installation de photos astronomiques. Mais la photo, on voit bien, elle est complètement rayée par des Starlink qui passent. Voilà, je te passe la parole.
Merci Olivier, c'est toujours un plaisir et j'apprends toujours autant de choses à écouter, c'est bien, je devrais être de l'autre côté. Merci Marie-Jeanne de m'avoir convié à remplacer au pied levé Arnaud Saint-Martin, qui était la personne qui était prévue sur les satellites.
Non, j'avais pas su qu'il était prévu. Hein, mais...
il était prévu et c'est même le spécialiste du Far Web, il a écrit deux livres, dont un sur l'astro-capitalisme. Donc je le remplace en partie au pied levé, mais vu que je suis un homme, je suis capable d'intervenir sur tout et n'importe quoi avec une aisance absolue, naturelle même.
Non, l'IA le fait encore mieux.
Oui, on va bientôt être grand remplacé, même les hommes cisgenres.
Et pas les femmes.
Non, pas les femmes, évidemment, parce que ça m'a pris. Jour de la nuit, je vais quand même compléter 2-3 éléments avant d'arriver sur le Far Web. Proposé à un certain nombre de partenaires associatifs en 2009 d'inventer un moment de célébration du ciel étoilé. Et c'est peut-être une des actions dont on est le plus fier au sein d'Agir pour l'environnement, avec les ORE. Parce que, en fait, ça nous sort un peu de notre corner de crognognon. Ça va pas bien, c'est pollué, c'est etc., etc. Et c'est un moment d'émerveillement à chaque fois. Et en fait, réussir à faire passer un message écolo au travers de l'émerveillement, c'est ce qu'on devrait s'efforcer de faire à chaque fois. Moi, tous les soirs, je vais promener mon chien et j'ai l'impression de participer au jour de la nuit. J'ai moins de PowerPoint, mais il y a un soir où en fait, on a promené notre chien et on a vu ça en fait dans le ciel. Ouais, c'est moins grand, voilà. Et en fait, au début, ça commençait comme ça.
Falcon.
C'était un petit truc comme ça. puis, si vous ne voyez pas, puis ça a grossi. En fait, c'est un dégazage d'un bout de la fusée de Falcon d'Elon Musk. C'est extrêmement joli, sauf que du coup, quand on sait que c'est de la combustion de carburant et que ça remplace en partie le ciel étoilé, il y avait quelque chose d'assez hallucinant. Je passe là-dessus. Jour de la nuit, en fait, a quand même une immense vertu. Et ça rejoint en partie ce qu'on a toujours voulu essayer de construire. C'est des campagnes qui se font en partenariat. Et en fait, le ciel étoilé, c'est presque un concentré, une fois encore, de ce qu'on aimerait pouvoir faire sur les autres campagnes. C'est-à-dire que c'est une problématique énergétique, climatique, biodiversité, santé, culture. Et en fait, ça nous permet d'aller voir l'Association française d'astronomie, ça nous permet d'aller voir l'Association des chiroptères, ça nous permet d'aller voir l'Association des maires de France. Enfin, on a toute une série d'acteurs associatifs, en fait, qui n'ont absolument pas l'habitude de bosser ensemble. Et de réussir à créer du lien autour de cet enjeu de ciel étoilé, il y a quelque chose de très gratifiant. Voilà. Tu disais, la problématique française, c'est que en fait, oui, on a un retour des conservatismes avec la peur du noir au sens propre comme au sens figuré. Et in fine, ce sentiment d'insécurité, évidemment, il va amener un certain nombre d'élus qui n'attendaient que ça pour rallumer, mais qui est largement inscrit aussi dans une problématique de consommation d'électricité. C'est-à-dire qu'en France, en fait, on n'a pas d'idée, mais on a beaucoup de surproduction nucléaire. Et en fait, sur la nuit, en fait, plus on est clair, plus on consomme de l'électricité. Et vu qu'en fait, en période d'heure creuse, on ne sait pas quoi en faire de notre électricité, il y a quand même une grosse pression du lobby nucléaire pour qu'on consomme cette électricité. Alors c'est tout le paradoxe, c'est que entre 19 et 21 heures, heure à laquelle on rallume l'éclairage en période hivernale, c'est aussi la période de pic de consommation. Et on a été tombé, nous, sur une étude de RTE et de l'ADEME à une époque, où le kilowattheure électrique est le plus carboné. C'est-à-dire que c'est le moment où on allume l'éclairage public que le bilan carbone du kilowattheure avoisine 500 à 600 grammes de 600 grammes de CO2 au kilowattheure consommé. C'est l'équivalent quand même de près de 6 kilomètres de voiture. Donc, en fait, on a quand même une problématique climat qui est assez importante. Pour les élus locaux, les problématiques environnementales, l'impact sur les vertébrés, invertébrés, le rythme circadien, diurne, nocturne, on a du mal à le faire entendre. Par contre, quand on leur dit que ça représente 41% de votre facture d'électricité, notamment en 2022 où en fait les prix de l'électricité ont fortement augmenté, on avait réussi justement à les intéresser par toute autre chose que l'environnement. Voilà, c'est bien dommage, mais en fait quand on leur parle gros sous, eh ben ils sont beaucoup plus sensibles. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à beaucoup éteindre. Santé aussi, on voit bien qu'il y a une grosse problématique et qui était on l'avait peu traité. Et en fait, il y a un rapport de l'ANSES en fait, qui a considéré la lumière, et notamment la lumière artificielle, comme un perturbateur endocrinien.
L'Académie de médecine aussi.
Voilà. Donc, c'est plusieurs points d'accroche qui nous permettent à un moment de justifier une campagne contre la pollution lumineuse. Farweb, Don't Look Up. Il nous avait dit. Donc, du coup, on regarde nos pieds, on regarde plus les étoiles, et en fait, on en finit par oublier le ciel étoilé. Tu l'as dit. Alors, moi, je suis un peu feignant, donc j'ai été récupérer une infographie de l'ARCEP, qui avait fait tout un très bon document sur les constellations de satellites, où en fait, il nous disait SpaceX 3395 satellites. C'était il y a 2 ans. Ah ouais. Maintenant, on est à 8475 en 2025, théoriquement. Et toi, tu dis 8700, mais c'est pas très étonnant. En fait, ça va à un rythme juste de folie. L'ONU nous dit qu'en fait, d'ici 2030, on sera à 100 000 satellites. Un décollage de fusée, c'est 4500 tonnes de CO2, 4500 tonnes de carburant, pardon. Donc, vous voyez un peu la quantité que ça va représenter, sachant que, à nouveau, en fait, on a une problématique qui est assez hétérogène. C'est-à-dire que les satellites, c'est tout à la fois une problématique de surveillance, je vais y revenir par ailleurs, une problématique de poubelle spatiale. En fait, c'est un peu à contre-emploi. On aimerait s'émerveiller et progressivement, je ne vais pas multiplier les jeux de mots, c'est ma spécialité, mais en fait, on est passé du ciel étoilé au ciel e-toile. C'est en fait, on a une espèce de toile numérique. Vous voyez bien, en fait, les zébrures. Et en fait, il y a quelque chose de l'ordre de l'inconscient où on vous emprisonne, en fait. Le far web, c'est pas étonnant que ça soit né aux États-Unis. Il y a un petit côté far west, on conquiert, il y a une domination. Enfin, il y a, voilà, Elon Musk, le masculinisme, etc., etc. On va coloniser l'espace, mais on va aussi le montrer. Et en fait, ce côté, on vous regarde du dessus et on vous emprisonne. En fait, je pense qu'il y a quand même quelque chose de l'ordre de la psychiatrie là-dedans. Et en fait, je vais être assez... Tu disais 300 kilos, un satellite, enfin c'est l'équivalent de cette taille-là. 300 kilos, 42 000 satellites, c'est l'équivalent d'un poids de la Tour Eiffel, un peu plus que le poids de la Tour Eiffel, qui sera envoyé dans l'espace. C'est du low cost, c'est-à-dire que en fait, leurs satellites ont une durée de vie de 5 ans.
C'est ce que j'allais te demander.
C'est 5 ans, c'est-à-dire que en fait, vous allez avoir 42 000 satellites, donc un cinquième de 42 000, c'est 8 000, je ne suis pas très bon en maths, mais c'est l'équivalent de quasiment 8 000 satellites qui doivent être envoyés tous les ans. En fait, donc vous voyez qu'en fait, on est parti dans une espèce de rythme apocalyptique de renouvellement de satellites. Avec, et alors tu disais, ils ont l'ambition de conquérir le monde pour avoir un nombre. Et en fait, on a engagé une procédure contre Starlink devant le Conseil d'État avec Pri Artem qu'on avait gagné. C'est une des seules fois où on a gagné au Conseil d'État. En fait, on avait plein de trucs sur l'environnement et ils nous ont dit non, vous avez gagné parce qu'en fait, ça déstabilise le marché. Absolument aucun intérêt à agir sur cet élément-là.
Mais concrètement, ça n'a pas arrêté Elon Musk, non, hein, votre truc.
Non. On n'avait pas la prétention d'arrêter Elon Musk, ça se saurait sinon. Sinon, on est parti de X. On pensait que ça allait déstabiliser Elon Musk et pas non plus. Mais globalement, en fait, cette histoire de marché, ça dit quelque chose. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont la prétention, ou en tout cas, c'est un peu comme la 5G, il y a un discours de façade. Et puis, il y a le métadiscours derrière. Le discours de façade, c'est on va remplacer les opérateurs de téléphonie mobile. Bidon. Ou en tout cas, à l'instant où on parle, Elon Musk, 8475 satellites, 2,7 millions de clients. Ça fait 318 clients par satellite sur la Terre entière. Donc, vous voyez que globalement, en fait, envoyer des satellites et penser rentabiliser un satellite avec 300 clients, ça ne marche pas. Et en fait, vous regardez bien, le principe de ce maillage, c'est d'avoir des satellites partout. En fait, ils sont très présents dans les salons de yachting, de yacht. En fait, c'est pour, à un moment, c'est un secret pour personne, 70% de la planète, en fait, c'est des océans. 70% du temps, les satellites d'Elon Musk passent sur des zones non couvertes. Oui, mais vous savez, ça permet à des gens qui habitent dans le désert ou sur les pôles de pouvoir téléphoner. Est-ce que vous pensez vraiment qu'on va rentabiliser une constellation de 42 000 satellites pour des gens qui habitent dans le désert? Elon Musk est un grand ami, il vient de l'Afrique du Sud, il a grandi pendant l'apartheid, donc il a une vraie appétence pour donner les moyens aux Africains de pouvoir communiquer. Bullshit également. Elon Musk a aujourd'hui une filiale avec les constellations de satellites sur la partie militaire. Le New Space est l'origine de la partie conquête de l'espace. Elle vient beaucoup du militaire. Aujourd'hui, Starlink est aussi très utilisé dans la guerre en Ukraine. Et en fait, vraisemblablement, à l'instar de la 5G, on nous avait dit c'est pour la vidéo, c'est pour la télémédecine et tout ça, et c'est pour la vidéosurveillance, c'est pour la reconnaissance faciale, parce qu'en fait, ça demande beaucoup de débit. Vraisemblablement, le fait de mailler complètement la planète entière, c'est aussi pour pouvoir tracer l'ensemble des communications qui vont être passées par des réseaux satellitaires. C'est en tout cas, moi, mon intuition. Après, je finis juste
oui,
sur les...
Oui, parce que tu es en train de nous déprimer complètement. Donc, moi, je voudrais
Attends, je t'inquiète pas, j'ai prévu mon effet de fin. Il ne faut pas que je l'oublie, d'ailleurs, tu me le rappelles. Oui. Pour moi, en fait, je vais continuer à te déprimer, mais sur les débris spatiaux, En fait, l'Agence spatiale européenne a recensé 36 000 objets de plus de 10 cm. Il y en aurait près de 1 million de plus de 1 cm. Sauf qu'en fait, ils ne sont pas détectables. Et en fait, bah, on a... c'était quoi ce film Non, merci. Avec l'explosion des navettes avec les débris. Gravity. En fait, le syndrome Kessler... C'est ça, je ne me trompe pas de nom. En fait, il y a globalement une problématique aujourd'hui de risque de avec ces débris spatiaux, de collision. En fait, les satellites Starlink à eux seuls sont impliqués en 2021 dans environ 1600 rapprochements critiques entre deux engins spatiaux chaque semaine, soit près de 50% de tous les incidents de ce type. Ces rapprochements incluent des situations où deux engins spatiaux passent à moins de 1 km l'un de l'autre. Donc vous voyez bien qu'en fait, plus on multiplie en basse orbite les satellites, là on est à 8000, on en aura 42000, on en aura vraisemblablement 100000 avec l'ensemble des méga-constellations, plus vous augmentez le risque d'une collision entre un débris ou entre des satellites entre eux. Je passe sur les petits essais de la Chine qui envoie des missiles pour détruire un ancien satellite pour voir ce que ça fait et qui vont générer des dizaines de milliers de débris et qui vont effectivement créer une sorte de nuage de débris spatiaux. Bon, après, c'est un peu comme la pollution plastique. En fait, on a aujourd'hui des sociétés qui sont en train de se créer pour aller récupérer quelques débris spatiaux. C'est pareil, c'est bullshit. On sait très bien qu'aujourd'hui, tout ce qu'on envoie dans l'espace va générer une pollution spatiale qui est assez conséquente. T'as vu, j'ai remonté le moral. Je finis juste sur cet élément-là. Débris spatiaux, s'il y a une loi française sur le principe des satellites qui oblige les satellites qui sont envoyés par la France, je ne sais pas si c'est l'Europe, je parle sous le contrôle d'Olivier. C'est une loi française dont l'objectif, c'est que l'ensemble des satellites qui retombent naturellement par gravité, plus ou moins lentement en fonction de leur hauteur, dans l'atmosphère et qui vont se consumer dans l'atmosphère, en théorie, l'ensemble des satellites français doivent se consumer entièrement. Les dieux sont tombés sur la tête. Mais... En fait, en se consumant, ils vont créer des particules d'alumine où certains scientifiques nous disent aujourd'hui « gros warning sur la couche d'ozone ». Et à l'instant où on commence à se dire...
Qui venait de se rétablir. Hein.
À l'instant où on commence à se dire que près de 8000 satellites vont se consumer par an, rien que pour le réseau Starlink, à raison de ce renouvellement naturel de satellites low cost, vous allez avoir une problématique aujourd'hui sur la couche d'ozone que les scientifiques ont du mal à évaluer, mais qui, en fait, est quand même aujourd'hui dans les radars, sans mauvais jeu de mots. Pourquoi il faut une réglementation internationale ?
Alors, peut-être, je voudrais t'interrompre parce qu'il est 8h10. Je voudrais qu'on, avant d'aborder la question de est-ce qu'on peut réglementer tout ça et est-ce que c'est faisable et à quelle échéance ? Peut-être voir s'il y a des questions sur tout ce qu'on vient de dire, peut-être des questions dans la salle. S'il n'y en a pas, vous débattrez tous les deux peut-on réglementer et avoir un statut de l'espace, par exemple ? Est-ce qu'il y a des questions ? Et peut-être qu'on peut nous mettre un peu de lumière, justement.
Normalement, les hommes ont toujours des questions.
Non, peut-être que vous pouvez vous présenter rapidement.
Ah bon, alors Philippe Carrier, je suis un copain de Stéphane. Je suis abonné à une excellente revue Ciel et Espace.
Voilà. Bravo.
C'est un bon petit jeu pour Noël.
Non, mais alors justement, en parlant de Ciel et Espace, là, ça va être assez flou ce que je vais dire, mais il me semble avoir lu il y a 2 ans peut-être, qu'en fait, derrière l'idée d'avoir Internet partout dans le désert et tout ça, qu'il y avait aussi, les hommes d'affaires étaient très intéressés par ça, pour gagner quelques millièmes ou milliardièmes de secondes dans les transactions financières. Voilà, donc c'était ça.
Oui, c'est bon, c'est toujours vrai.
Ok, d'accord. D'accord. Bon, c'est vrai.
Il y a plein d'intérêts tout à fait spécifiques.
Il y a plein d'intérêts tout à fait spécifiques à améliorer le maillage Internet à haut débit. aussi bien militaire, surveillance, etc. Donc il y a des tas de clients, il y a des tas de gens qui sont prêts à dépenser beaucoup d'argent pour avoir de l'Internet à haut débit, qui ne sont pas seulement effectivement des pauvres habitants locaux qui sont dans le désert, ça c'est sûr. Ah oui, non, Musk ne se lancerait pas là-dedans. Enfin, Musk, il se lance dans des trucs un peu bizarres. Non, c'est solvable. Enfin, pardon, c'est prévu pour être solvable. J'en sais rien si ça l'est vraiment. Et le Jeff Bezos derrière, enfin, là, c'est très clair qu'il va arriver d'autres méga constellations, d'autres systèmes que Starlink. Et le problème, c'est pas les 42 000, effectivement. Quand tu dis 100 000, c'est que... Il va y avoir de la concurrence entre des réseaux concurrents qui vont s'installer et donc il y a l'idée qu'ils ont un intérêt économique derrière. Quoi.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ?
Ou remarques ?
Ou remarques ? J'en vois. Oui ? Non ? Non ? Peut-être qu'on peut effectivement essayer de voir. Je crois qu'il y a une réglementation européenne en préparation.
Alors, oui, donc effectivement, il y a une réglementation européenne en préparation. Donc je vous ai.
Réglementation de l'espace, hein,
oui,
c'est
oui.
Ça.
Voilà, donc c'est effectivement. Voilà, c'est parti. La Commission propose une législation. Pour l'instant, ce n'est pas voté du tout. Hein, c'est dans les tuyaux. Ah, et l'idée, c'est que ça sortirait pour 2030. Évidemment, c'est une réglementation européenne, donc elle s'applique qu'en Europe. Elle s'appliquerait qu'en Europe. Et voilà, elle prévoit effectivement un article 72 sur la pollution lumineuse et radioélectrique. Et voilà. Et donc, sur le point spécifique qui m'intéresse très égoïstement, qui est la pollution lumineuse, ce qui est prévu, effectivement, c'est de limiter la pollution lumineuse et radioélectrique. Donc, en gros... Pardon, c'est passé la diapo d'après. Pour vous dire, là, on parle de limiter à la magnitude 7. Ça veut dire que ça devrait être en dessous des dernières étoiles visibles à l'œil nu. Donc, ça veut dire que la réglementation prévoirait qu'on ne les voit pas à l'œil nu. Après, ça raiera quand même les images du ciel, évidemment. Quoi. Et donc, le truc est pour l'instant en préparation pour être voté. Avec normalement une date de mise en œuvre qui serait 2030, et il faut encore que ce soit voté, et de toute façon, ça s'appliquera qu'à l'Europe. Voilà. Donc oui, c'est en préparation.
Alors, on avait entrepris, Stéphane, il y a 3-4 ans, justement, dans le cadre de la campagne de Le Jour de la Nuit, une démarche, on avait lancé l'idée d'une démarche auprès de l'UNESCO pour faire que l'UNESCO déclare le ciel étoilé patrimoine de l'humanité, patrimoine mondial plutôt. Bon, les astronomes avaient essayé de le faire, mais c'était... ça a été voué à l'échec parce que l'UNESCO peut décider que le couscous ou la pizza c'est patrimoine, mais pas le ciel étoilé. Mais ce que on a suggéré, qu'il y ait un statut, que l'UNESCO définisse un statut spécial pour le ciel étoilé qui appartient effectivement à toute l'humanité et essaie de protéger. Mais est-ce que ça protégerait vraiment ?
Alors, ce qu'on peut dire là-dessus, c'est qu'effectivement. Il y a eu des tas de tentatives de faire protéger le ciel. En fait, sur l'UNESCO, ce qu'il y a eu, c'est qu'il y a une protection des sites d'observation astronomique, mais au sens historique du terme. C'est-à-dire qu'il y a maintenant des sites comme Stonehenge ou d'autres qui sont classés comme faisant partie du patrimoine astronomique mondial. Mais ce sont des sites historiques d'observation, en fait. Donc, ça n'a pas du tout à voir avec le truc. Effectivement, le classement au patrimoine de l'humanité, ce qu'on classe, ce sont des lieux ou des objets existants, des recettes, des trucs comme ça. Mais c'est lié à des territoires. Donc, en gros, le ciel n'est pas classable dans cette catégorie-là. Il y a eu des tas de déclarations où diverses instances ont dit qu'il fallait protéger le ciel, mais effectivement, pour l'instant, il n'y a pas de catégorie dans laquelle on le classerait. Quoi.
Donc, quelle idée tu as, toi, pour provoquer une réglementation ? Il faudrait que ce soit une réglementation au niveau mondial.
Je peux monopoliser la parole encore 10 minutes. Oui, c'est un peu ce que j'ai essayé de dire au début, c'est-à-dire que pour nous, pour les astronomes, quand on parle de la protection du ciel, donc clairement on parle du fait qu'on voit le ciel et les étoiles, en fait, actuellement en 2025, le problème, c'est pas Elon Musk et les Starlink. C'est-à-dire que ceux-là, ils sont à la limite de la visibilité, même si vous avez vu qu'on en voyait plein. On en voit, ils sont dans nos classifications, dans nos mesures, ils sont de magnitude 4,5 ou des choses comme ça. C'est-à-dire qu'on les voit passer, mais ils n'empêchent pas de voir le ciel dans son ensemble. Et normalement, il y a eu des tas de négociations sur la capacité à réfléchir, l'albédo des satellites, la capacité à réfléchir de la lumière, etc. Donc on a bien compris que, en gros, Elon Musk va se dépatouiller de ces trucs et il va rester en dessous des normes acceptables pour ça. L'enjeu pour la protection du ciel, pour moi, aujourd'hui, c'est plutôt toujours la protection terrestre, disons. En revanche, pour moi, et je suis exactement comme Stephen, c'est-à-dire que les satellites, les constellations de satellites sont une catastrophe pour l'encombrement de l'espace, pour la pollution chimique qui crée, pour les risques de chute, de désorbitation, de collision, etc. Donc c'est une catastrophe, il faut absolument tirer un signal d'alarme, mais finalement il n'est pas sous l'angle de la visibilité du ciel par le grand public. En gros, c'est deux choses différentes, quoi. On peut faire les lanceurs d'alerte, mais si par exemple tu arrivais à ce qu'on protège le ciel noir, ben ça enlèverait pas le problème du far web, quoi.
Oui.
Alors, il y a eu deux trucs, il y a eu plein de trucs comme ça. Il y a eu aussi les constellations publicitaires, hein, marquées buvez Coca-Cola. Donc oui, il y a des projets comme ça de satellites éclairant l'Arctique ou je sais pas quoi pour de la prospection minière, etc. Et effectivement, pour l'instant, on n'a pas de protection contre ça. Et toi, tu m'as dit que c'était relancé. Ah oui.
On est en train de tourner parce que c'est Eric qui nous a envoyé.
Oui. Il y a une question là. Allez-y. Oui, vous voulez le micro ?
Oui, c'est pas plus mal.
Oui, si je. sauf erreur, lorsqu'il y a un train de satellite de Starlink qui est lancé, il est d'abord relativement proche en altitude. Et ensuite, au bout d'un moment, les satellites sont beaucoup plus hauts. Donc, on ne les voit plus. C'est exact ou pas ?
C'est pas exact. Alors, je ne suis pas assez spécialiste pour ça. Pour moi, non. Ils montent un peu, mais...
Pourquoi on verrait... Il y a déjà combien de trains qui ont été lancés au moins de 200 ?
Oui, oui.
Donc... On devrait voir 200 trains de satellites en permanence. Or, en réalité,
on ne voit que
les trains de satellites qui ont été lancés dans les 15 jours ou 3 semaines avant. Quoi.
Disons qu'ils... Oui, quand je dis non, c'est qu'ils ne sont pas tellement plus loin en orbite. Hein. Ils passent de 200 à 400. Quoi. Donc, ils sont...
Oui, mais ils sont
ça suffit.
Ils sont plus visibles. En visualisation
Ils sont encore visibles.
Hein.
Ils sont encore visibles, mais ils sont dispersés. On ne voit plus les trains. En fait, alors...
Visible à l'œil nu ou visible.
Attends, là on le voit. Sur ceux qu'on voyait ce soir, ils sont de magnitude 4,5 ou 5. Hein. Donc en fait, ils sont. Ce qui se passe, c'est quand on les voit passer, c'est le choc, parce qu'on voit vraiment le train. Et ils sont brillants de magnitude 2, disons, quelque chose comme ça.
Mais ça avance, hein. Moi j'en ai vu.
Et ça fait le train, vraiment, ça fait le train. Et vous les voyez repasser une heure et demie après, d'ailleurs, etc.
Ça,
bon, là, ce qui est frappant, c'est qu'ils se succèdent et qu'on voit. Qu'on voit la gerbe, quoi, en gros. Après, je ne crois pas qu'ils soient plus de deux fois plus loin, donc ils sont moins brillants, ça c'est sûr, et ils sont quand même encore à la limite de la visibilité à l'œil nu, mais comme il n'y a plus d'effet de gerbe, on ne les voit plus, quoi, en gros. Et après, la limite de la visibilité à l'œil nu, quand il y a un ciel parfait.
Oui, en ciel parfait, oui.
En ciel parfait.
C'est quoi, c'est 5,5 à peu
près. Là, ceux-là, ceux qu'on voyait, on peut refaire le... Voilà, ceux qui sont là, bah ils sont, vous voyez, ils sont 4-1, 3-7. Alors ça, c'est un train, visiblement, en plus.
Oui, c'est un train.
C'est un train. Il faudrait que je regarde sur une autre date. En tout cas, quand ils sont loin, il y a des 4-5 là. Ils sont quand même assez brillants.
Et question suivante, mais courte également, c'est, on l'a vu à un moment donné, est-ce qu'il y a une possibilité de faire en sorte que les satellites soient véritablement avec un albédo très faible qui limiterait à ce moment-là, enfin une réflexion très faible obligatoirement, ce qui limiterait à ce moment-là évidemment la visibilité.
Alors,
assez vite.
En fait, le gros problème, c'est qu'ils ont des panneaux solaires. En fait, c'est ça. Donc, en fait, pourquoi ils sont... Ils pèsent pas... Toi, tu as dit 300 kilos, c'est beaucoup moins de 300 kilos. C'est gros comme ça. Hein. Ah bah, dans ma tête, c'était plutôt 50 ou... Bon. Bon. Enfin, bon, ils pèsent un certain poids. Hein, mais d'accord. Et ils ont à peu près cette taille-là, puisqu'ils en enfilent 60 dans une gerbe. Et ils ont des panneaux qui se déploient. Et on ne sait pas faire des panneaux solaires qui ne sont pas très réfléchissants. Quoi. Donc, il y a eu des négociations, je ne sais trop qui d'ailleurs, à négocier avec Starlink. Et les deuxièmes générations ont des albédos, des réflectances plus basses. Mais n'empêche que les panneaux solaires, il y a les satellites Iridium, là, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, voilà, qui, quand on les voit passer, on est vraiment ébloui. Ils peuvent être largement plus brillant que Vénus quand il y a des réflexions directes sur les panneaux solaires. Donc là, simplement, Elon Musk a accepté de faire des traitements de surface des panneaux solaires des générations suivantes, ce qui a un peu baissé la luminosité. Et clairement, on a un gain d'une magnitude, je crois, entre les deux générations.
Je reviens dessus, hein, mais je pense qu'effectivement, c'est pas la problématique centrale des méga-constellations, c'est pas la pollution lumineuse. C'est ce que tu as dit, la pollution chimique, c'est les débris spatiaux, c'est la prédation de l'espace, c'est... Il y a suffisamment d'éléments pour critiquer, pour qu'on se laisse pas complètement détourner ou qu'on soit pas dans le mélange de la partie pour le oui. tout. C'est effectivement la pollution lumineuse, et en fait, je vais même aller plus loin, c'est plutôt les particuliers. Aujourd'hui, quand les collectivités ont commencé à prendre conscience, on commence à avoir des réglementations sur le commerce qu'il faut faire appliquer ou sur la publicité lumineuse. Bon, voilà, donc on a quand même réussi à avancer, mais il reste des dizaines et des dizaines de voilà, moi, mon cas particulier, je me promène. En fait, j'ai d'un côté un particulier qui a une espèce de spot qui reste allumé 24/24.
Pour la pollution lumineuse, tu veux dire. Oui.
Et en fait, la problématique, c'est aussi sur les centres logistiques. C'est-à-dire qu'en fait, les trucs qui sont suréclairés, qui font un halo lumineux 24/24 et qui manifestement ne sont pas concernés par la réglementation sur le commerce, là, on a une vraie... Et pour moi, en fait, tu vois, la problématique sur le classement du ciel étoilé au patrimoine mondial, c'est un super outil parce qu'en fait, ça permet de renvoyer...
Sensibiliser les citoyens.
En termes d'imaginaire, c'était le thème des premières rencontres de l'écologie, c'est quel imaginaire. Moi, je me souviens d'une pub de RTE, faite de la nuit, un jour comme les autres, et on montrait la défense suréclairée. Et en fait, ça dit beaucoup de cet imaginaire.
Oui,
on éclaire, c'est le progrès, en fait, on ne va pas dormir, on va être productif 24/24. Quand c'est la nuit, on dort, on est improductif, on rêve, on lâche prise. Donc voilà, il y a cet élément-là.
Et puis t'es chez le pays qui fait peur en plus.
Voilà, en plus. Mais même si t'as pas peur, en fait, tu es dans le rêve. Bon, voilà,
mais juste pour dire, par rapport à ce que tu disais sur les centres logistiques et tout ça, en fait, les problèmes aujourd'hui, quand on écoute les personnes qui se plaignent des problèmes d'éclairage, hein, c'est les serres agricoles. Donc les serres à tomates ou à fraises, etc., qui sont suréclairées, qui sont sur des très très grandes surfaces. Je pense à une précise à côté de Rennes. Ensuite, c'est les éclairages de parkings d'hôpitaux. Parce qu'il y a des tas de bâtiments, notamment les hôpitaux, où le principe, c'est que tout le parking doit être éclairé. Je ne sais pas pourquoi, ça revient tout le temps. Tout le monde nous raconte l'histoire qu'il habite en face d'un hôpital où c'est mal éclairé, on se prend les projecteurs dans la tête absolument partout. Et donc, effectivement, le problème, c'est un problème de discipline des petites organisations qui devraient éteindre les centres logistiques qui pourraient très bien éteindre et allumer avec des cellules. Les parkings d'hôpitaux, ils pourraient être éclairés par des trucs qui sont bien réglés.
Oui, oui.
C'est-à-dire qu'il y a quelques années, avant les lampes LED, qui étaient évidemment, ça consommait tellement que c'était une des motivations de consommer moins d'électricité. Maintenant, avec l'éclairage LED, mais je pense que la pression des citoyens.
Qui est dans l'autre sens pour l'instant, la pression des citoyens. Bah,
sur la sécurité, mais je vois l'effet quand ils savent que l'impact que ça a sur l'effondrement de la biodiversité et sur la santé, ça a quand même une influence.
Moi, je me demande, on fait comment pour alerter ou pour signaler? Parce qu'en fait, elle est où la police de la nuit?
Le maire.
Il faut aller voir le maire.
Le maire.
Et qui mesure et qui va mettre? Parce que la nuit.
Il y a des cabinets maintenant qui se développent. Il y a Dark Sci Lab. On a des gens qui se sont mobilisés. Il y a des collègues et des chercheurs qui se sont mobilisés là-dessus, Observatoire de la biodiversité, Dark Sky Lab, etc., qui font des études de pollution lumineuse pour les communes. Sébastien Vauclair, Dark Sky Lab, par exemple. Maintenant, il y a à la suite du développement des réserves de ciel étoilé avec les développements des dernières, là, il y a une association française, Dark Sky France, qui s'est créée, qui fait un travail d'animation transversale aux 7 réserves de ciel étoilé. Il y a l'association pour la protection du ciel et l'environnement nocturne qui gère les labels village étoilé, etc. Donc il y a des acteurs qui ont de la compétence et qui interviennent pour les collectivités intéressées. Les villes comme Lyon, Marseille, Bordeaux, etc., ils ont fait appel à ces cabinets-là. Et ils peuvent contrôler les projets de diminution, etc. Et l'interlocuteur, c'est clair, c'est les élus locaux.
C'est là où, sur les pubs, les panneaux de pub, en fait, c'était le préfet qui était responsable. En fait, ça a fait le succès de Paysages de France, en fait, qui lançait des procédures, il interpellait le préfet, il ne répondait pas, il l'a signé, etc. À l'instant où, en fait, on donne la responsabilité aux élus locaux d'aller voir les commerçants pour les sanctionner, en fait, il y a quelque chose de l'erreur 404. On sait très bien qu'en fait, des élus locaux, en fait, ils essaient de chouchouter les commerçants. Et en fait, un commerçant qui laisse allumer, il fait rester allumé. Et on le voit dans les rues de Cluny. En fait, la plupart des magasins restent allumés la nuit. Parce que, retravaillons l'imaginaire sur, mais est-ce que vraiment laisser allumer va amener le lendemain matin, parce que je suis passé à 2h du matin devant un magasin, je vais aller acheter dans ce magasin, mais il y a quelque chose de...
T'as raison que c'est quasiment gratuit en cœur de nuit. Le problème, il est là, c'est que ça coûte pas grand-chose de laisser allumer parce que l'énergie est... Et pas consommer la nuit.
Et
quoi, donc.
Je reviens dessus, sur la façon dont on valorise... C'est en fait, je pense que vous réfléchissiez à accorder une étoile, deux étoiles, trois étoiles, par exemple, les accueils paysans. Enfin, il peut y avoir pas mal de lieux qui accueillent du public et qui ont fait un effort pour éteindre eux-mêmes dans leur zone. Le fait qu'à un moment, pourquoi les réserves de ciel étoilé, ça a tant de succès, c'est qu'en fait, c'est aussi un modèle économique derrière. C'est les touristes qui viennent pour voir des étoiles et qui, à un moment, se disent...
Typiquement, Valberg, moi, je... Là, je reviens d'il y a quelques semaines, j'étais au Astro-Festival Astro-Valberg, où c'est le conseil général qui est vraiment complètement investi. C'est le bord de la réserve Alpes Azur Mercantour, là. Et effectivement, c'est leur stratégie. Ils ont un sentier planétaire. C'est une station de sport d'hiver maintenant toute saison. Et un argument de vente, sur la mairie, tu as un rallumons les étoiles en très gros, et donc c'est une politique. Voilà, et ils vendent du sport d'hiver et du... Non, pas avec un spot, un vrai truc.
Bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va s'arrêter parce qu'on... Oui, très rapidement alors.
Oui, non. Je me demandais s'il ne fallait pas profiter des municipales à fond là-dessus, bien sûr. Parce que c'est, à mon avis, un argument comme assez fort, puisque c'est effectivement les élus municipaux. Et moi, il m'est arrivé l'autre jour, je vais être très rapide, mais il m'est arrivé l'autre jour quelque chose d'assez amusant. C'est-à-dire, j'étais sur une intervention que je faisais auprès d'élus du.
Est-ce que vous n'êtes pas présenté?
Moi, je suis Thierry Salomon, je travaille sur l'énergie, voilà, sur
des
mégawatts et des scénarios énergétiques. L'autre jour, je faisais une présentation, je pense, sur un mégawatt, et puis il y avait j'avais des élus en face, plein d'élus. Il y avait deux élus qui étaient à côté l'un de l'autre, de petits villages. Et on commence à parler de réduire ou d'éliminer complètement les lumières la nuit. Alors il y a un des élus qui a dit à l'autre, purée, si je fais ça, ils avaient l'accent en plus qu'ils avaient, si je fais ça, alors là, moi j'ai tous les citoyens contre moi. Et l'autre répond, mais arrête, moi j'ai fait ça il y a 2 ans, si je rallume, je suis battu. Et donc ça bouge. Moi j'ai un village à côté de chez moi, ils ont dit, c'est bon, ça y est, les gens se promènent le soir avec une lampe de poche. Là. Donc je pense que là il y a un mouvement, à mon avis, qui peut se faire, très, très clairement.
Nous, on a créé un collectif, en plus du jour de la nuit, un collectif des veilleurs de nuit. Un collectif des veilleurs de nuit. L'année dernière, on avait 300 personnes. On a relancé là. On en a eu 600 de plus. Donc, en fait, on a 900 personnes qui sont des veilleurs de nuit.
Explique rapidement.
Des veilleurs de nuit, c'est des gens qui s'engagent, en gros, à regarder les étoiles, à ne pas suréclairer chez eux. Et en fait, le fait d'avoir individuellement... Alors, Non. la période actuelle, on les prépare. Mais en l'espèce, veilleur de nuit, je pense que en fait, le fait de sensibiliser, d'afficher la préservation du ciel nocturne, enfin, faire un boulot d'éducation populaire et de majorité culturelle, ça permet aussi derrière d'allumer un contrefeu et d'imposer d'imaginaire
ça
qui.
Ça prend du temps.
Voilà, fermons les yeux 5 minutes. Allez, on ferme les yeux 1 minute.
Là-dessus, on va aller prendre le train.
Vous allez pouvoir arriver à Mâcon-Locher avec un super centre logistique suréclairé.
Est-ce qu'il y a une soirée d'observation ?
Merci beaucoup.
Allez, Angie.